8h sur France Culture. Le journal Aurélie Kiffer. Bonjour Aurélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Paris gagné pour Alexis Tsipras en Grèce. Syriza revient au pouvoir et le parti de gauche radicale reforme sa coalition avec la droite souverainiste. Nous analyserons les résultats de ces élections législatives anticipées avec Annabelle Grelier.
Un projet d'accord politique de sortie de crise au Burkina Faso. Il est proposé par la CDAO pour ramener le calme dans le pays suite au coup d'État de jeudi dernier. Mais ce projet ne fait pas consensus. Nous joindrons Aurélie Fontaine à Ouagadougou.
L'ONU appelle la communauté internationale à accroître son soutien aux pays voisins de la Syrie qui accueillent des centaines de milliers de réfugiés. Nous entendrons le reportage de Jérôme Bastion en Turquie.
La SNCF risque gros. Les prud'hommes doivent trancher aujourd'hui le litige qui l'oppose à quelques 800 cheminots d'origine marocaine accusés de discrimination. La SNCF pourrait devoir débourser jusqu'à 350 millions d'euros.
La Grèce et le peuple grec sont synonymes de résistance et de dignité et ce combat va se poursuivre pendant 4 années. Déclaration d'Alexis Tsipras à l'issue de la victoire de son parti aux élections législatives anticipées. Selon les derniers résultats presque définitifs, Syriza l'emporte avec plus de 35% des voix contre 28% au parti de droite Nouvelle Démocratie. Alexis Tsipras devrait donc redevenir Premier ministre dès aujourd'hui et reformer une coalition avec son allié de la droite souverainiste. On retrouve notre envoyé spécial en Grèce, Annabelle Grelier en direct d'Athènes. Bonjour Annabelle.
Bonjour Aurélie.
Alexis Tsipras remporte bien une victoire, même si l'atmosphère n'est pas vraiment à la fête.
Oui, c'est sûr Aurélie, l'ambiance hier soir à Athènes n'avait rien à voir avec celle de janvier dernier. En janvier, il y avait de l'espoir, des larmes de joie, presque de l'euphorie dans les rues d'Athènes. Hier soir, c'était plutôt de l'ordre du soulagement ou d'une satisfaction contenue aux abords du siège de Syriza. Mais c'est tout de même un pari gagné pour Tsipras et à plusieurs titres. D'abord, en remportant haut la main ces élections, Tsipras montre à l'Europe entière qu'il n'a pas perdu la confiance des Grecs. Tsipras déclarait lui-même hier soir qu'il se sentait légitimé par ce succès. Et Tsipras est désormais débarrassé de son aile gauche des grosses personnalités comme l'ancien ministre de l'énergie, Panayotis Lafazanis, favorable au retour à la drachme, ou encore l'ex-présidente du Parlement, Zoé Constantopoulou, qui prenait le non-remboursement de la dette. Maintenant, Alexis Tsipras va pouvoir avoir les coudées franches. Il n'a pas besoin de coalition trop large. Avec une dizaine de députés ANEL, il a désormais la majorité absolue à la Voulie. Nous allons pouvoir former un gouvernement de combat, déclarait Tsipras hier soir. Nous avons des années difficiles devant nous, mais nous pouvons le faire en travaillant dur, a-t-il prévenu.
Gouvernement de combat, donc, quelles sont les premières batailles que le gouvernement de Tsipras va devoir mener ?
Bon, il y a du pain sur la planche, comme on dit. Un porte-parole du Syriza a annoncé hier soir que le parti mettrait en œuvre le plan conclu avec les créanciers internationaux, tout en continuant à négocier ses conditions d'application. Alexis Tsipras, en effet, a promis pendant la campagne une mise en œuvre plus sociale et équitable du plan de redressement du pays. Son premier objectif reste celui qu'il avait déjà énoncé en janvier, la lutte contre le clientélisme, la corruption et l'évasion fiscale. Mais des réformes, il va devoir en mener et certaines seront douloureuses. La feuille de route comprend notamment la suppression des pré-retraites, le statut des agriculteurs, la TVA dans les îles, mais aussi le gros programme de privatisation.
Merci Annabelle Grelier en direct d'Athènes avec Jean-Pierre Pernel à la technique.
Et plusieurs milliers de réfugiés, Aurélie Kiffer, sont encore arrivés hier en Autriche.
Oui, mais ce sont les pays voisins de la Syrie qui portent le fardeau le plus lourd, rappelle le patron des opérations humanitaires de l'ONU. Stephen O'Brien appelle la communauté internationale à accroître son soutien à la Jordanie et aux autres pays de la région qui accueillent chacun des centaines de milliers de réfugiés syriens. Jérôme Bastion, le correspondant de RFI en Turquie, s'est rendu hier dans la ville frontière d'Erdine. Ici, comme à la gare routière d'Istanbul, ils sont des milliers bloqués par la police turque qui tente depuis plusieurs jours de les empêcher de gagner la Grèce ou la Bulgarie. Écoutez le reportage de Jérôme Bastion.
Distribution de plateaux repas pour les quelques 1000 réfugiés syriens qui se sont provisoirement installés dans le parc entourant l'arène des lutteurs d'Edirne. Au menu, un peu de riz, des pois chiches, un peu de viande, du pain, distribué par des associations humanitaires turques.
Le peuple syrien aspire à une vie meilleure. Il veut la liberté. Et ce dont nous avons besoin, c'est que le gouvernement turc, n'importe quel gouvernement, nous aide à entrer en Grèce parce que tout le monde ici possède un diplôme, mais nous n'avons pas d'avenir en Turquie.
à la gare routière d'Istanbul aussi. C'est un capharnaüm indescriptible. Il y a 2000, 3000, peut-être 4000 personnes qui s'entassent, qui font la queue, qui essayent de passer les portes qui leur permettront de rejoindre d'une manière ou d'une autre Edirne, parce qu'ils sont en fait ici empêchés de circuler, empêchés de sortir.
Je suis ici avec mes deux fils pour aller en Allemagne, où m'attend mon fils de 16 ans. S'il n'ouvre pas la frontière, j'emmènerai mes enfants par la mer. Je veux qu'ils aient une chance de poursuivre leurs études et de faire une bonne carrière.
Pour tous ces enfants, Edirne n'est qu'une étape. La promesse d'un avenir meilleur se trouve de l'autre côté de la frontière, soit en Bulgarie, soit en Grèce, pour rejoindre soit l'Europe de l'Ouest, soit le Canada.
Hier, de nouveaux drames se sont produits en mer Égée. 26 personnes ont coulé au large de l'île de Lesbos et 13 autres ont disparu dans le détroit des Dardanelles. Depuis le Maroc, où il était en déplacement pendant deux jours, François Hollande a évoqué la répartition des réfugiés relevant du droit d'asile. Aucun pays européen ne peut s'exonérer de l'accueil des réfugiés, a déclaré le chef de l'État. Ou alors, nous n'appartenons plus au même ensemble fondé sur des valeurs et des principes. Mercredi, les 28 membres de l'Union doivent se mettre d'accord sur un mécanisme de répartition des réfugiés. Aujourd'hui, une réunion sur ce thème est organisée entre Luxembourg, qui préside actuellement l'Union, et les pays les plus réticents, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Hongrie. Benjamin Netanyahou se rend aujourd'hui à Moscou. Le Premier ministre israélien souhaite parler de l'engagement militaire de la Russie en Syrie. Cette semaine sera d'ailleurs marquée par d'autres visites diplomatiques importantes. Après-demain, ce sera le tour du président palestinien Mahmoud Abbas et du président turc. La correspondance de Marc Crépin à Moscou.
Cette visite surprise décidée vendredi sera la première de trois rencontres importantes en trois jours au Kremlin. Benjamin Netanyahou arrivera dans la matinée accompagné de deux généraux, le chef d'état-major de l'armée israélienne et le patron des services de renseignement. Le premier ministre israélien serait inquiet du déploiement des moyens militaires russes dans la région. Il n'y a pour l'instant que 4 chasseurs-bombardiers et 4 hélicoptères sur la base de Latakié, mais la Russie a l'intention d'y envoyer encore plusieurs MiG-29, des missiles solaires et peut-être des troupes au sol si Damas en faisait la demande. Les Israéliens veulent donc établir une coordination des opérations militaires et surtout veulent exprimer leurs préoccupations d'un éventuel soutien à leur ennemi juré, le Hezbollah, qui combat aux côtés de Bachar al-Assad. Mercredi, on va se bousculer dans le bureau de Vladimir Poutine, puisque les présidents palestiniens et turcs, qui viennent inaugurer la réouverture de la grande mosquée de la capitale russe, se succéderont pour débattre, eux aussi, de la meilleure façon de sortir du conflit syrien.
Ce week-end, Vladimir Poutine a aussi signé le projet de création d'une base militaire aérienne en Biélorussie. Il s'est rendu hier en Sibérie centrale, où se déroule de gigantesques manœuvres militaires. À trois mois d'une possible levée des sanctions pour l'Iran, les Français se positionnent. 132 entreprises et deux ministres ont posé le pied hier soir à Téhéran, l'Iran où les produits français sont très appréciés. Ludovic Piétenu, l'envoyé spécial de France Culture en Iran, suit pour nous cette visite de trois jours.
Les Iraniens ont connu il y a quelques années les produits made in France, mais après une très longue période de sanctions, l'attente est forte et c'est surtout la qualité qui pourra faire la différence. Dans les cosmétiques par exemple, Christine Valin, PDG de Pierre Auger, va ouvrir dans quelques semaines son premier institut de beauté à Téhéran. Elle n'a pas attendu ce voyage.
On est une petite entreprise, si on arrive après toutes les grandes marques, ça va être très compliqué. Dans ces voyages-là, se signent des contrats qui sont déjà négociés avant. Donc pour nous, comme petite société, ça peut permettre de rencontrer quelqu'un plus facilement. Ça va pas bien au-delà parce qu'on est tout simplement trop petit et pas forcément assez visible.
Pour beaucoup d'entreprises françaises, c'est un retour aujourd'hui en Iran. D'autres ne sont jamais partis. On peut parler de Total ou Renault. Ça leur a coûté beaucoup, mais aujourd'hui, ces deux grandes entreprises françaises ont sans doute un temps d'avance. Payman Kargar est le directeur général au Moyen-Orient de la marque Losange.
Nous, on a pris ce risque-là et je pense que, vu que les choses s'arrangent, je pense qu'on a eu raison et je pense que Renault, en tant qu'entreprise française, a une position extrêmement avantageuse aujourd'hui et je pense qu'on a une vraie carte à jouer aujourd'hui dans ce pays.
Reste un souci, le financement des entreprises par les banques, car en France, elles sont plus que frileuses. Elles ont en mémoire la très forte amende infligée l'an dernier à BNP Paribas, plus de 8 milliards d'euros. Des négociations vont débuter dans les prochains jours entre Bercy et le Trésor américain, car c'est bien lui qui menace nos banques pour apaiser le climat et permettre aux entreprises françaises de faire des affaires en Iran.
Un point sur la situation au Burkina Faso, déstabilisée depuis jeudi par un coup d'État, Aurélie Kiefer.
À l'issue de 3 jours de médiation, la CEDEAO propose un plan de sortie de crise, plan qui sera soumis demain à l'Union africaine lors d'un sommet extraordinaire. Le projet prévoit notamment le retour de Michel Kafando à son poste de président, mais il envisage également une loi d'amnistie pour les putschistes proches de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, et cette proposition choque les représentants de la société civile. À Ouagadougou, on retrouve Aurélie Fontaine de la RTBF.
Cette fois-ci, on se battra avec leurs armes, les armes des putschistes, disait hier soir un des porte-parole de la société civile burkinabé. Des mots qui ne laissent rien présager de bon pour la suite des événements dans le pays. Dans la rue, la population prévient, elle ne se laissera pas faire. Car la feuille de route qu'a finalement proposée hier la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en charge des négociations pour sortir le Burkina de cette grave crise politique, déplaît. Parmi les propositions, il y a d'abord le report des élections présidentielles prévues initialement ce 11 octobre et qui seraient finalement repoussées au 22 novembre. En attendant, la CEDEAO propose de restaurer au pouvoir le président Michel Kafando, détenu depuis mercredi dernier par les putschistes, puis mis depuis en résidence surveillée. Un report qui permettrait notamment à certains proches de l'ancien président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir l'an dernier, de présenter leur candidature au scrutin, ce qu'il s'était vu refuser pour le vote d'octobre. Autre point très sensible, l'amnistie accordée au chef putschiste, le général Diendéré, et à ses troupes de la garde présidentielle. Et c'est surtout ça qui passe très mal auprès de la population et de la société civile. Les soldats de la junte sont en effet accusés d'avoir provoqué la mort d'au moins 10 personnes et blessé une centaine d'autres alors que des Burkinabés manifestaient dans les rues pour protester contre ce coup d'État. Cette feuille de route de la CEDEAO sera présentée mardi lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Les pays membres devront donc décider si oui ou non ils la valident.
On revient en France. Après les Républicains et leurs consultations sur le projet politique de Nicolas Sarkozy, voilà qu'à gauche aussi, on se prend à vouloir consulter le peuple. Le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a annoncé hier vouloir organiser un référendum à la mi-octobre autour de la question suivante, oui ou non à l'unité dès maintenant pour les élections régionales. Pour Jean-Luc Mélenchon du Parti de gauche, ces questions n'est que le reflet de l'impasse dans laquelle se trouve le système politique actuel.
Ce sont des états-majors assez informés et conseillés pour comprendre que tout ce bazar est en état d'agonie. Hein. Alors, ils pensent qu'ils vont s'en tirer en gesticulant et en donnant l'apparence des choses à consommer. Alors, ils disent, bon, ben, les gens veulent s'impliquer, très bien, on va leur poser les questions qui nous conviennent.
Mais est-ce qu'ils veulent s'impliquer tant que ça? Parce que la participation est toujours très faible sur ces consultations.
Mais bien sûr, les gens sont très en retrait de toutes les institutions politiques et incluent, bien sûr, les partis politiques. Vous verrez que, le moment venu, les choses sont en train de naître. Des mouvements citoyens se mettent en place et qui arrivent à organiser leur coordination en passant par les réseaux sociaux. Ça mettra le temps qu'il faut, mais ce phénomène-là finira par l'emporter sur les organisations traditionnelles. Et le but de tout ça sera, à la fin, la destruction de l'ancien système politique. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. La Ve République est à bout de souffle, elle a tout pourri. C'est le régime des leaders partout. La simplification de l'information, le résumé des programmes à quelques gesticulations. Les puissants peuvent pendant quelques temps se dire « Ah, bien joué, nous avons dupé tout le monde !» Et hop, c'est reparti pour 5 ans, hop, c'est reparti pour 3 ans. Non. Arrive toujours le moment de l'épreuve des faits. Et nous sommes en train de nous en approcher. Alors ils pensent aujourd'hui s'en sortir, parce qu'ils ont trouvé une bête qui fait très peur, qui est Madame Le Pen, et alors ils se disent, du coup, les gens préféreront avoir affaire à nous, même si nous sommes corrompus, même si nous sommes menteurs, même si nous ne tenons jamais nos promesses, plutôt que d'avoir affaire à elle. Elle est donc leur assurance vie. Il ne faut jamais désespérer. La petite lumière de l'intelligence est toujours la plus forte.
Jean-Luc Mélenchon au micro de Marie-Alix Sauté. La SNCF devant les prud'hommes. Ils sont plus de 800 cheminots de nationalité ou d'origine marocaine à s'être plaints de discrimination de la part de l'entreprise publique. Ils ne bénéficiaient pas du même statut avantageux que les Français et réclament chacun en moyenne 400 000 euros. La décision des prud'hommes doit tomber aujourd'hui, Antoine Marette.
C'est au début des années 70 que la SNCF va recruter des cheminots au Maroc. On est à la fin des Trente Glorieuses, au moment où la main-d'œuvre manque. Ces immigrés du rail sont envoyés aux quatre coins de la France, mais contrairement à leurs collègues cheminots français, ils ne bénéficient pas du statut particulier qui donne de nombreux avantages, comme par exemple la garantie de l'emploi, une plus grande protection sociale et des conditions de départ à la retraite plus intéressantes. Les salariés marocains qui bénéficient d'un simple CDI de droit privé affirment également qu'ils ont été bloqués dans leur carrière. Face à eux, la SNCF assume la distinction entre agent au statut et contractuel, Une distinction parfaitement légale selon l'entreprise publique et dont la conséquence est notamment deux régimes de retraite différents. Elle conteste en revanche la discrimination dans l'évolution de carrière en affirmant que les contractuels pouvaient se présenter aux examens aux mêmes conditions que les cheminots français. Elle invoque également sur la forme des problèmes de prescription. L'enjeu financier est considérable pour la SNCF. Les plaignants réclament en moyenne 400 000 euros. Cela représente en tout 350 millions d'euros.
La météo, la journée s'annonce calme et ensoleillée, mis à part sur le nord-ouest où il faut s'attendre à de faibles pluies. Il fera cet après-midi 25 degrés à Cherbourg, 21 à Paris comme à Lyon, jusqu'à 27 à Perpignan, Guillaume.
Ça a l'air de vous étonner, hein, ces températures.
Oui, je crois que je me suis trompée. Je pense qu'il fait plutôt 15 degrés, à mon avis, à Cherbourg. J'ai un petit doute.
Il fait toujours beau à Cherbourg. En tout cas, merci Aurélie. On retrouve un prochain rendez-vous d'information à 9h sur France Culture.